j'inviterai à tourner dans vos Bibles au livre du Deutéronome. C'est dans l'Ancien Testament le cinquième livre de la Bible. Donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. En commençant cette année, je me suis dit, il nous faut un texte avec un défi. On a nos défis, comme papa parlait, défis familiers, défis scolaires, défis toutes sortes de choses, mais il nous faut des défis spirituels pour commencer cette année. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Et je me suis dit, ben, pourquoi pas commencer avec le dernier message de Moïse et son appel. Vous savez, des fois, il y a des pasteurs qui vous font des appels pour venir devant, pour prendre une décision. Ben, c'est ce texte-là, c'est le texte de Moïse, son dernier discours, son dernier message, son dernier appel pour prendre une décision. Le choix entre la vie, la mort, la bénédiction, la malédiction, de choisir la vie, choisir Dieu pour le servir et pour l'aimer. Deutéronome au chapitre 30 et des versets 11 à 20. Donc le dernier appel de Moïse le pasteur. Je vais lire le texte une fois et puis je vais prier. Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'obéir à ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Prions ensemble. Père, ce matin, on se prépare à rentrer dans une nouvelle année dans la vie de l'Église, et ensemble, je te prie que tu révèles à nos cœurs les différents défis que tu veux nous lancer, ce à quoi tu nous appelles. Aujourd'hui, c'est le moment de la décision. C'est aujourd'hui, comme le texte nous le dit. Et qu'est-ce que tu attends de nous, Père? Montre-nous les différentes applications que tu veux qu'on trouve dans ce texte, ce que tu veux faire de nous. Et alors que nous te choisissons, nous décidons de te suivre et de relever le défi. Dans le nom de Christ. Amen. Donc, ce passage, comme je vous ai dit, c'est un peu le dernier discours de Moïse. Ils sont dans les plaines de Moab, donc à l'est du pays de Canaan, et ils se préparent à rentrer. Mais Moïse n'est pas permis de rentrer dans le pays de Canaan. Alors il lance ce dernier défi pour que le peuple d'Israël choisisse de suivre Dieu, de servir l'Éternel. Et pour étudier ce texte, je vous propose trois différents niveaux. On va commencer par par étudier le contexte littéraire de ce texte. Donc, où se trouve ce texte? Je vous dis, c'est le dernier discours de Moïse, c'est à la fin du Deutéronome. Il y a beaucoup de détails qui sont vraiment intéressants et qui nous aident à vraiment rentrer dans le texte avant d'étudier son message. Deuxièmement, on va étudier le message du texte, qu'est-ce qu'il veut dire? Et troisièmement, essayer de sortir de ce texte, mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, nos applications pour aujourd'hui? Texte littéraire. Ce texte est vraiment intéressant parce qu'il y a trois niveaux dans lesquels on peut comprendre ce texte. C'est la fin du dernier discours de Moïse, donc le troisième discours, on peut comprendre le livre du Deutéronome en trois discours, et c'est la fin du troisième discours. C'est aussi la fin de tous ces discours, la fin du Deutéronome, et c'est en même temps la fin du Pentateuque. C'est la fin de cet ensemble qu'on appelle la loi, de Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et il y a beaucoup de choses qui nous aident à comprendre la valeur de ce texte et en fait son message quand on le met dans son contexte. Premièrement, c'est la fin du troisième discours qui a commencé au chapitre 29. Après, l'énumération des différentes bénédictions et malédictions pour Israël s'ils suivaient ou s'ils rompaient l'alliance avec Dieu au chapitre 28, Moïse répond à ces énumérations avec une alternation entre qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Si vous ne choisissez pas Dieu et il sait que le peuple va se détourner de Dieu, vous allez subir les malédictions, vous allez même partir en exil. Mais en même temps, en réponse, Moïse lui dit « Dieu, il est bon et il vous aime, il veut renouveler son alliance. Vous allez subir les conséquences de votre désobéissance, mais vous allez revenir de l'exil. » Et en vue de tout ce qui va se passer, on lit au chapitre 30, le premier verset, « Lorsque toutes ces choses arriveront, la bénédiction et la malédiction, donc les deux se passeront, que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations dans lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, » ça nous rappelle quelque chose, de tout ton cœur, de toute ton âme, chapitre 6 et 4, et verset 4, « Toi et tes enfants, selon tout ce que je t'ai prescrit aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de foi. » Déjà, dans le Deutéronome, on a cette prédiction. Le peuple d'Israël va se détourner de l'Éternel. Ils vont partir en exil, mais Dieu leur dit « Je vais vous ramener, je vais changer vos cœurs pour que vous me suiviez. » En vue de ce qui va se passer dans le futur, aujourd'hui, choisissez d'être cette génération qui vraiment s'attache à l'Éternel et qui choisit de vivre la plénitude de la vie que Dieu leur offre, à la place d'être cette génération qui se détourne de l'Éternel et qui rapidement part en exil. C'est la fin aussi du Deutéronome, donc la fin du troisième discours. Et souvent, le Deutéronome, on le compare à un traité entre un suzerain et un vassal dans le Proche-Orient ancien. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. À gauche, il y a les différents éléments qui rentrent en compte dans un traité hittite, donc de l'époque à peu près à laquelle le Deutéronome a été écrit. Et à droite, un peu un plan du Deutéronome. Donc un titre, un prologue historique, les demandes, c'est-à-dire ce qu'il faut faire pour respecter l'alliance, le dépôt et la lecture du texte de l'alliance, l'appel aux témoins, dans le Deutéronome, ça vient plus loin, ça vient même dans notre texte, en fait, avec le choix de les cieux et la terre. D'habitude, dans les autres traités d'alliance, c'est un nombre innombrable de dieux qui sont pris à témoin, comme ça, si tu romps l'alliance, il y aura ce Dieu-là qui viendront contre toi. Mais dans notre texte, il n'y a qu'un seul Dieu qui est fort et il choisit sa création comme témoin. Tu ne peux pas te cacher de moi. C'est moi seul qui suis contre toi, qui peut juger de ce que tu fais et qui te tiendra responsable. Et puis finalement, une liste de malédictions pour ceux qui ne suivent pas l'Alliance et les bénédictions pour ceux qui suivent l'Alliance. Et on voit dans le Deutéronome qu'en fait, ces deux objets ont changé de place, la bénédiction vient en premier, parce que c'est le cœur de Dieu, il veut bénir, il ne veut pas maudire. Donc il met les bénédictions en premier, mais il y a quand même les malédictions si on rompt l'alliance. Donc on se trouve ici à la fin de ce traité, avec le choix des témoins, et ce dernier appel, c'est une alliance qu'on a fait avec Dieu. Il faut s'attacher à lui, il faut vivre dans la bénédiction. Dieu nous offre la vie en plénitude. La vie de plénitude, on peut l'avoir si on l'aime, si on s'attache à lui. Mais en même temps, comme je vous ai dit, c'est aussi le livre du Deutéronome, ce n'est pas juste un traité d'une alliance, c'est aussi le discours de Moïse et c'est son dernier appel, son cœur de pasteur. Il a été avec le peuple pendant des dizaines et des dizaines d'années et c'est son dernier cri, suivez l'Éternel, vous êtes trompé, vous êtes planté dans le désert, mais maintenant c'est votre opportunité pour faire la différence et pour suivre l'Éternel. Et finalement, donc la fin du troisième discours, la fin du livre du Deutéronome, c'est aussi la fin du Pentateuque en général. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant. Si vous voulez, je vous enverrai le PowerPoint. Mais on trouve dans notre texte énormément de parallèles avec les premiers chapitres de la Genèse. Donc il y a le parallèle entre le ciel et la terre que Dieu a créé, servir ou choisir Dieu, être béni par Dieu. Il y a une terre idéale qui est devant nous. Il y a un choix entre le bien et le mal. Il y a un péché qui est commis avec la punition qui est la mort. Et l'exil, l'expulsion de la terre, que ce soit du jardin d'Éden ou que ce soit la terre de Canaan. Et avec ces différents parallèles, l'auteur du Pentateuque en général, je crois que c'est Moïse, d'autres pensent à un autre auteur peut-être, ou un éditeur qui a compilé les différents récits de Moïse, qui les a mis dans un seul livre, qui forme le Pentateuque. Ensemble, il nous donne une vue d'ensemble et il nous appelle à regarder notre vie en perspective. Notre choix, ce n'est pas juste un choix que nous prenons maintenant, on le prend à la lumière de l'histoire. Et notre choix, on est appelé à faire un meilleur choix que même celui qu'Adam a fait. On sait qu'il s'est planté, et nous, encore aujourd'hui, on a le choix entre le bien et le mal. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, contexte littéraire. La fin du troisième discours de Moïse, la fin du Deutéronome, la fin du Pentateuque, et maintenant, le message. Le texte se divise assez facilement en deux parties, des versets 11 à 14, où Dieu parle de sa révélation, et des versets 15 à 20, c'est vraiment l'exhortation à la vie. Donc, la première partie, des versets 11 à 14, je vais les lire encore. « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ?» Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique? C'est une chose ou c'est une parole. Cette parole, au contraire, est proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu la mettes en pratique. J'ai essayé de vous mettre un peu la structure de ce texte. Au centre, il y a deux illustrations. Aller au ciel, aller au-delà de la mer. Mais le message clair de ce texte, on le voit dans le premier verset et le dernier verset, c'est une révélation qui est accessible. C'est un commandement que je te prescris, c'est pour toi, et c'est pas au-dessus de tes forces, et c'est pas hors de ta portée, et c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je me suis montré à toi, qu'est-ce que tu vas en faire? Et cette révélation, c'est quoi? C'est un commandement. Des fois, on se dit, Dieu se révèle, oui, Jésus, c'était Dieu incarné, il s'est révélé à nous. Mais sa révélation, c'est une grâce, comme Jésus qui est venu sur la terre. Mais là, en l'occurrence, sa révélation, c'est la loi, c'est un commandement. Mais c'est une grâce parce qu'ils savent ce que Dieu veut d'eux. Ce commandement, c'est une expression qui est utilisée tout autour du Deutéronome et qui est vraiment globale. Ce n'est pas juste l'obéissance à un commandement qui est requise, mais c'est l'obéissance à toutes les lois ensemble. Et ce commandement, il est donné au peuple d'Israël, et c'est une grâce parce que dans ce monde polythéiste, avec plusieurs divinités, quel Dieu adorer, quel Dieu servir, quand quelque chose m'arrive, vers qui je me tourne? Et de notre côté, pour nous, dans le monde, c'est un peu la même chose, quand on ne connaît pas l'Éternel, dans ce monde post-moderne, quelle vision du monde, quelle philosophie, quelle religion je vais choisir. Il y a toutes sortes de différentes religions. Et peut-être avant que vous étiez chrétien, vous vous demandez, mais qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que ça veut dire, ceci et cela? Mais quelle grâce de savoir ce que Dieu attend de nous. Et pour illustrer un peu ce point, j'aimerais vous lire une prière qui a été écrite à un Dieu inconnu, ou à n'importe quel Dieu. C'est une prière qui date de 2000 ou 2500 ans avant Jésus-Christ, qu'on a retrouvée aussi au 7e siècle avant Jésus-Christ. Donc, elle était utilisée un peu partout. On l'a retrouvée à Ninive, dans la librairie d'Assurbanipal, pour ceux qui sont intéressés. Mais il y a un message qui est vraiment clair au travers de cette prière, et j'espère que vous pourrez être patient avec moi alors que je la lis. Alors, prière à un Dieu inconnu. Que le cœur encoléré de mon Seigneur soit apaisé. Que le Dieu que je ne connais pas soit apaisé. Que la déesse que je ne connais pas soit apaisée. Que le Dieu, quiconque soit-il, soit apaisé. Que le cœur de mon Dieu, un Dieu personnel ou familial, soit apaisé. Que le cœur de ma déesse soit apaisé. Que mon Dieu et ma déesse soient apaisés, que le Dieu qui est en colère et s'est détourné de moi soit apaisé, que la déesse qui est en colère et s'est détournée de moi soit apaisée. Je ne sais pas quel mal j'ai commis. Mon Dieu n'a pas appelé mon nom avec faveur, ma déesse n'a pas appelé mon nom avec faveur. Mon Dieu n'a pas mentionné mon nom avec faveur. Ma déesse n'a pas mentionné mon nom avec faveur. Je ne pouvais pas manger le pain que j'ai trouvé. Je ne pouvais pas boire l'eau que j'ai trouvée. Le pain et l'eau, il ne pouvait pas les boire parce qu'il les offrait en offrande au Dieu. Il ne savait pas quelle faute il avait commis, il ne savait pas quelle rétribution faire. J'ai perpétué involontairement une abomination contre mon Dieu. J'ai violé involontairement un tabou à ma déesse. « Ô mon Seigneur, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Ô mon Dieu, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Ô ma déesse, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Ô Dieu, qui que vous soyez, nombreuses sont mes fautes, grands mes péchés. Je ne sais pas quelle faute j'ai commis. Je ne sais pas quelle abomination j'ai perpétuée. Je ne sais pas quel tabou j'ai violé. Un Seigneur m'a dévisagé dans la colère de son cœur. Un Dieu me fait faire face à la furie de son cœur. » Une déesse s'est enragée contre moi et m'a rendu malade. Un Dieu, quiconque soit-il, m'a critiqué. Une déesse, quiconque soit-elle, m'a rendu misérable. Je n'arrête pas de chercher, mais personne ne m'aide. Quand je pleure, il ne s'approche pas. Quand je me plains, personne ne m'écoute. Je suis misérable, aveuglé, je ne peux pas voir. Tournez-vous vers moi, Dieu de grâce, alors que je vous implore. Je vous fais hommage, ma déesse, alors que je m'abaisse. Ô Dieu, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ô déesse, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ô Seigneur, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ô déesse, qui que vous soyez, regardez-moi, je vous implore. Ô Dieu, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ô déesse, qui que vous soyez, tournez-vous vers moi, je vous implore. Ô Dieu, quand pourra votre cœur enragé être calmé? Ô déesse, quand pourra votre cœur indifférent être apaisé? Ô Dieu, qui que vous soyez, quand pourra votre cœur enragé être calmé? Ô déesse, qui que vous soyez, quand pourra votre cœur indifférent être apaisé? Les hommes sont simples et ne connaissent rien. Peu importe le nombre de noms qu'ils ont, que savent-ils vraiment? Ils ne savent pas du tout s'ils font le bien ou le mal. Ô mon Seigneur, ne rejetez pas votre serviteur, il est coincé dans la boue, aidez-le. Transformez le péché que j'ai commis en virtuosité, que le vent emporte avec lui le mal que j'ai fait. Nombreux sont mes crimes, enlevez-les comme un vêtement. Ô mon Dieu, bien que le nombre de mes crimes soit 7 fois 7, absolvez-moi de mes erreurs. Ô ma déesse, bien que le nombre de mes crimes soit 7 fois 7, absolvez-moi de mes erreurs. Ô Dieu, qui que vous soyez, bien que le nombre de mes crimes soit 7 fois 7, absolvez-moi de mes erreurs. Ô déesse, qui que vous soyez, bien que le nombre de mes crimes soit 7 fois 7, absolvez-moi de mes erreurs. Absolvez-moi de mes erreurs, que je fasse retentir votre louange, comme si vous étiez ma véritable mère, que votre cœur soit apaisé, comme si vous étiez ma véritable mère, mon véritable père, que votre cœur soit apaisé. On lit cette prière et on se dit, c'est pathétique, mais quel pauvre type. Il ne sait pas vers quel Dieu se tourner, il ne sait pas quel Dieu il a offensé. Il y en a des milliers. Il ne sait pas quelle offense il a faite. Il dit « Nombreux sont mes crimes, nombreuses sont mes offenses. » Mais il dit « Je ne sais pas quelle faute j'ai commis, je ne sais pas quel tabou j'ai violé. » Et il ne sait pas quoi faire. Il a offert son pain, il a offert son eau, il a offert tout ce qu'il pouvait, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire pour apaiser le cœur de cette déesse. Il est totalement paumé, il ne sait pas quoi faire. Et au milieu de cela, Dieu montre sa grâce dans ce qui révèle son commandement. Son commandement, il n'est pas au-dessus de tes forces, il n'est pas hors de ta portée, je te l'ai révélé. Ce pauvre type, qu'est-ce qu'il va faire pour trouver la volonté de son Dieu ou pour apaiser son Dieu? La Bible nous montre un peu deux options, versets 12 et 13. Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Et plus tard, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Le ciel, pour nous, on regarde le ciel, on se dit, waouh, c'est beau, et le ciel... À ce moment-là, c'est la demeure des dieux. C'est là où ces dieux, dans sa vision polythéiste, habitent. Qui ira vers les dieux pour trouver leur volonté, pour trouver ce qu'ils attendent de moi et revenir me le dire? Et la mer, si vous connaissez un peu la mythologie égyptienne, c'est un symbole de la mort. On part par la rivière pour aller de l'autre côté de ce fleuve et aller vers la vie après la mort. Qui ira de l'autre côté du fleuve vers le Dieu après la mort et reviendra dans la vie pour me dire ce que ce Dieu attend de moi? Qui peut faire ça? Ce sont des choses qui sont impossibles à ses yeux, c'est impossible de les réaliser. Sauf qu'on lit ces textes et on se souvient, qui montera pour nous au ciel, au Sinaï, Dieu est descendu sous la forme d'un nuage, des éclairs, du tonnerre et une voix puissante qui parlait et qui répondait, qui donnait ses commandements. Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer la mer Rouge, Dieu a ouvert la mer pour que le peuple d'Israël traverse. Dieu s'est révélé de façon puissante et extraordinaire pour le peuple d'Israël, de façon qui n'est nulle part attestée dans les autres religions du monde, pour montrer « je me suis révélé à vous avec puissance ». Et cette révélation, elle est à portée de ta main. J'ai fait des miracles incroyables pour que tu puisses recevoir ma volonté. Elle est là, à portée de ta main. Et tu peux l'accomplir. Elle est où ? Elle est sur ta bouche et dans ton cœur. Alors qu'on la parle, alors qu'on la prononce, cette parole, tu peux la recevoir. Elle peut pénétrer ton cœur. On voit ce mouvement avec des cercles concentriques, la parole qui rentre jusqu'au cœur alors qu'on la parle, alors qu'on la médite. Et elle ressort par notre obéissance alors que Dieu nous transforme depuis le cœur, l'âme, la force, c'est-à-dire le cœur, nos pensées, pas juste nos émotions, surtout les pensées, la façon dont on pense et les décisions qu'on met, mais aussi nos émotions, de vouloir aimer Dieu réellement avec des émotions qui sont vraies, avec tout notre être et avec toute notre force, c'est-à-dire tous nos biens. C'est un niveau après l'autre, d'abord notre cœur, notre pensée, ensuite tout notre être et après tous nos biens. De pouvoir tout diriger vers Dieu dans cette obéissance. C'est une grâce que Dieu s'est révélée, que ce soit pour le peuple d'Israël avec le mont Sinaï, la mer Rouge, que ce soit pour nous, qu'on ait ces textes, qu'on ait ces souvenirs de ce qui s'est passé, que Dieu continue à se révéler à nous avec ses histoires et ses écrits que l'on a, avec Christ qui est venu sur la terre. Quel miracle notre salut! On n'a aucune excuse. Dieu nous a fait une grâce incomparable et on l'a à portée de la main. Elle est dans notre main et quand on l'a dit, elle est sur notre bouche et elle peut rentrer dans nos cœurs si on veut. Elle est accessible. C'est un miracle parce que, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais ce n'est pas partout pareil. Je serai le premier à le dire, je veux traduire la Bible dans une langue où il n'y a pas eu la Bible encore parce qu'il en reste encore 2000. Il y a 2000 peuples qui n'ont pas la Bible encore. J'ai un copain qui travaille sur une traduction de la Bible en Asie. Son peuple, c'est 1 million de personnes. C'est pas n'importe quoi. Il y a beaucoup de besoins encore. Et c'est aujourd'hui, après 200 ou 300 ans d'efforts missionnaires incomparables dans l'histoire de l'Église, mais au travers de l'histoire de l'Église, il y avait combien de personnes qui n'avaient pas cette révélation de Dieu ? Et avant Christ, combien de personnes n'avaient pas la révélation de Dieu ? Le fait qu'on ait cette Bible dans nos mains, c'est une grâce incomparable et on est redevable devant Dieu de ce qu'on fait et des décisions qu'on prend. Et c'est pour ça qu'après nous avoir montré cette grâce incomparable de la révélation de Dieu, on doit faire face à un choix. Le choix qui est présenté dans les versets 15 à 20. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris, ou ce que je te prescris aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Ayant reçu cette révélation incomparable, Dieu nous met face à un choix. La vie, la mort, le bien ou le mal. Ces deux mots, verset 15, la vie et le bien, on pourrait traduire la vie et la bénédiction. La mort et le mal, la mort et la malédiction. Dieu a énuméré les différentes bénédictions, les différentes malédictions qui sont reliées à son alliance. Et le choix, c'est obéir à l'alliance, avoir la vie en abondance et la bénédiction de Dieu, désobéir à l'alliance, être puni par la mort et recevoir les malédictions qui sont liées quand on rompt l'alliance avec Dieu. Donc, on fait face à ce choix, au verset 15. Et il y a deux options. Il y a le bon choix, il y a le mauvais choix. Ça ne peut pas être plus clair dans une certaine manière. Le pasteur sait comment s'exprimer. Moïse, il dit, il y a un bon choix, il y a un mauvais choix. Quel choix vas-tu prendre? C'est assez clair quand même. Quand tu fais deux opposés comme ça, c'est presque indirect pour l'instant qu'il faut choisir le bon choix. Mais il ne s'arrête pas là. Il dit d'abord au verset 16, « Je te prescris de prendre le bon choix. Aujourd'hui, prends le bon choix. Aime l'Éternel ton Dieu, marche dans ses voies et observe ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Dieu veut te bénir. Peuple d'Israël, il voulait les bénir. Et il leur dit, tu vas rentrer en possession du pays. À la fin, c'est sûr. J'ai pas juste envie de te bénir dans le futur. Je te dis déjà, j'ai déjà prévu de te laisser rentrer dans le pays d'Israël. Parce que je veux prendre soin de toi, je suis bon. Et tu vois que je veux prendre soin de toi. Alors choisis-moi, choisis la vie, choisis de m'aimer. Et de me servir, de m'adorer en m'aimant, en marchant dans mes voies, en observant mes commandements. Et plus tard au verset 20, en obéissant à ma voix, tu peux entendre ma voix et tu peux y obéir. Et tu peux t'attacher à moi et pour t'attacher à lui. Donc un choix, un bon choix, un mauvais choix. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Encore, même pour ceux qui seraient sous la malédiction en rompant l'alliance, il leur dit, vous allez prendre possession du pays et vous allez passer le Jourdain. Je ne sais pas si vous vous souvenez du récit en Josué, de comment ils ont traversé le Jourdain, mais Dieu a ouvert le Jourdain comme il a ouvert la mer Rouge. Et il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je fais le même miracle pour te montrer que je serai avec toi. C'était un miracle incroyable, le Jourdain. Et prendre possession du pays, c'est un miracle aussi, c'est Dieu qui combat avec nous. Deux miracles, même pour ceux qui se détournent de Dieu. Il leur dit, regarde, je veux te bénir, je veux être bon envers toi, je veux vivre avec toi et te bénir. Mais si tu te détournes de moi, alors que je vais te faire entrer dans le pays, alors que je vais te donner le pays, tu vas périr et tu ne vas pas prolonger tes jours dans le pays. C'est-à-dire, tu partiras en exil. Je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit que la malédiction, ça sera partir du pays, aller en exil et la souffrance qui va avec, parce que c'est la guerre et c'est les gens qui meurent et c'est la souffrance et c'est terrible. Donc, deux choix. Verset 16. Choisir Dieu et son adoration, et versets 17 et 18, choisir la mort et la malédiction. Et regardez aussi ce contraste entre la nature de l'adoration, entre Dieu et les idoles. Devant les idoles, on se prosterne et on les sert. Devant Dieu, on a une relation d'amour. On vient de chanter, je veux chanter un chant d'amour, d'aimer l'Éternel. On marche dans ses voies, on marche après lui, on marche avec lui. On observe ses commandements parce qu'il nous donne ses commandements. Il se révèle. Et plus tard, comme j'avais dit au verset 20, on peut obéir à sa voix, on peut entendre sa voix, on peut lui obéir. Dieu parle et on peut s'attacher à lui comme à une personne. Le contraste entre se prosterner, donner une offrande et puis vivre avec quelqu'un et être béni par lui. Aujourd'hui, il y a ce choix. Le bien et le mal, un bon choix, un mauvais choix. La conclusion, versets 19 à 20. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Moïse nous donne deux choix. Il y a un bon choix et un mauvais choix. Alors on se dit, je présume que s'il me donne un bon choix, un mauvais choix, il veut que je prenne le bon choix. Après, il dit, je te prescris de prendre le bon choix, comme si ce n'était pas assez clair. Et puis maintenant, il nous dit, choisis la vie, choisis le bon choix, un impératif. Si tu veux vivre, si tu veux être béni, choisis Dieu pour l'aimer, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, la vie et la bénédiction. C'est ainsi que tu pourras rentrer dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Encore, comme je vous avais dit à la fin du Deutéronome, on doit le lire en vue de tout le Pentateuque, et qu'on était appelé à faire le bon choix qu'Adam n'a pas fait, encore on se retrouve dans une perspective plus grande où on pourrait recevoir la bénédiction que même Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas reçue. Ils n'ont pas reçu la terre, ils n'ont pas pu vivre là-dedans. Mais Dieu l'offre au peuple d'Israël. Donc, chapitre 30, des versets 11 à 14, une révélation de grâce, un commandement de grâce. Et versets 15 à 20, le choix, l'exhortation à choisir la vie. Maintenant, on va passer aux applications. On a regardé le contexte littéraire, comprendre où se trouve ce texte pour mieux le comprendre. On a regardé le message, une révélation hors pair, une exhortation à choisir Dieu. Maintenant, nos applications. J'ai trois applications pour vous. Enfin, deux, la troisième, elle est pour vous. Placez votre application dans le PowerPoint. Première application, on en a déjà parlé. La grâce de Dieu qui se révèle pour nous aujourd'hui. Même aujourd'hui, alors qu'on a ouvert la parole de Dieu, on a regardé ensemble dans le chapitre 30 du Deutéronome, Dieu s'est révélé à nous aujourd'hui. Dieu nous a montré sa parole et ce qu'il attend de nous. On est redevable devant Dieu de ce qui nous a fait cette grâce que l'on ait accès à sa parole. Et à la maison, peut-être vous avez trois ou quatre Bibles, deux ou trois Bibles d'études. C'est un cadeau hors pair que Dieu vous donne pour que vous puissiez le connaître, pour que vous puissiez connaître sa volonté. Est-ce qu'on en profite de ce don que Dieu nous a donné? Parce qu'on est redevable devant lui aussi. Deuxièmement, cette révélation ici, c'est pas juste Jésus qui vient sur la terre, qui souffre pour nous et qui nous donne le salut. C'est un commandement. Et j'aimerais vous inviter à revoir un peu votre compréhension des fois de ce que c'est un commandement. Jésus a dit « Vous êtes mes amis si vous obéissez à mes commandements ». Et des fois on a l'impression « Oh, un commandement c'est imposant, c'est pas ce Dieu d'amour que j'ai connu quand je me suis converti ». Oui, mais ce commandement c'est un commandement, c'est la grâce de Dieu qui se révèle à toi et qui te dit ce qu'il attend de toi. Qu'est-ce que tu ferais si Dieu ne te parlait pas ? C'est pas juste un Dieu qui t'aime et qui te sauve, mais c'est un Dieu qui veut te transformer et qui veut te pousser de l'avant. Les Israélites, ils avaient la loi de Dieu. Dieu leur a dit, si tu construis une maison avec un toit plat, il faut que tu fasses une bordure. Parce que si tu ne fais pas une bordure, les gens ils vont tomber du toit. Et quand tu tombes d'un toit, ça fait mal. Il leur a dit, si tu as une bête et qui attaque ton voisin, qui lui fait mal, eh bien, il faut que tu prennes soin de ton voisin. Et si ta bête continue, il faut que tu abattes ta bête parce qu'elle est dangereuse pour tes voisins. La loi de Dieu, le commandement de Dieu a un sens, a un but. Elle est bonne, elle est parfaite. Comme dit le psalmiste au chapitre 119, il dit « Ta loi ravive mon âme ». Il faut qu'on revoie nos conceptions de l'Ancien Testament et de la loi. On dit « Cette loi que Dieu a donnée, elle est parfaite, elle est belle et j'ai des choses à apprendre dedans ». Et troisièmement, on a un défi devant nous dans cette nouvelle année. Peut-être en 2012, Dieu vous a mis quelque chose à cœur. Vous avez un défi devant vous. Et j'aimerais aussi vous donner un nouveau défi. Sans pointer du doigt ou sans parler d'un péché particulier, mon défi pour vous, c'est est-ce qu'il y a un trait de personnalité sur lequel Dieu voudrait que vous travailliez? J'ai pas envie de vous donner des applications parce qu'on pourrait jamais en finir. Mais Dieu peut vous toucher par son Saint-Esprit. Il continue à nous parler. Cette grâce de la révélation, elle continue alors que Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on puisse passer deux ou trois minutes de silence où vous laissiez Dieu vous parler, vous dire sur quoi est-ce que Dieu veut que je travaille dans cette nouvelle année. Et puis, pour vous aider, peut-être, est-ce qu'il y a un trait de personnalité sur lequel Dieu voudrait que je travaille? Par exemple, la joie. On ne pense pas souvent à la joie. Est-ce que je suis quelqu'un de joyeux? Paul dit, soyez toujours joyeux. Alors la joie, ce n'est pas juste la confiance que Dieu va revenir, que Dieu fait tout pour mon bien. Ce n'est pas juste ça, c'est aussi ça. Mais la joie, c'est aussi simplement une émotion. Est-ce que j'ai l'émotion de la joie? Est-ce que Dieu a travaillé en moi pour me transformer au point que je puisse, de façon véritable, avoir une joie profonde? La même chose pour l'espérance, pour la paix, la patience. Je ne sais pas quel trait de caractère Dieu veut vous montrer, sur lequel Dieu veut travailler avec vous. Je vous demande de passer juste 2 ou 3 minutes de silence. Répondez à cet appel, ce défi. Sur quoi est-ce que Dieu veut travailler dans vos vies en cette nouvelle année ?